SOS Forêt Dordogne, au cœur des forêts périgourdines.
Bonjour, je suis Jean Bernard, donc co-président de l'association SOS Forêt Dordogne, qui est une association qui essaye de défendre nos forêts patrimoniales périgourdines, qui sont actuellement et depuis quelque temps déjà dévastées par l'industrie du bois, par les coupes rases. Coupes rases qui sont systématiquement, pratiquement remplacées par des plantations en monoculture de pins maritimes. Voilà, donc aujourd'hui, le sujet, bien sûr, c'est pour nous, c'est toujours la défense des arbres. Et justement, je vais vous parler de l'arbre. Alors, la Dordogne est un département boisé sur environ 45% de sa surface, avec une grande richesse d'essences différentes. Le Périgord est donc un territoire qui sent bon l'arbre, je veux dire l'arbre des forêts aux odeurs d'humus, de champignons, à la robe changeante selon les saisons, où la vie foisonne sous toutes les formes. Mais qui sont ces arbres ? Arbres des villes, arbres des champs, arbres des forêts que nous côtoyons tous les jours, sans y prêter plus d'attention tellement elles nous sont familiers, ou plutôt, qu'est-ce qu'un arbre ? L'arbre n'est pas un volume de bois inerte. L'arbre vit, il naît. Le plus souvent, il naît d'une graine. Il grandit, il grossit, se nourrit, se reproduit. Il respire, il transpire même. Et cela pour ses fonctions les plus élémentaires. Nous verrons aussi qu'il a développé, bien avant que l'humain n'arrive sur Terre, des facultés que nous ne soupçonnons même pas. L'arbre vit en symbiose avec l'atmosphère. Avec l'air, il respire. La respiration des arbres s'effectue par les feuilles, les fleurs, la tige et les racines. Les feuilles d'un arbre respirent par les stomates, qui sont des sortes de pores microscopiques qui peuvent s'ouvrir et se fermer. Les branches, le tronc et les racines respirent par les lenticelles, qui sont d'infimes ouvertures à leur surface. La respiration a lieu jour et nuit, alors que la photosynthèse, nous le verrons plus loin, n'a lieu qu'à la lumière du jour. La respiration est une fonction vitale qui permet la synthèse de nouveaux tissus. L'arbre transpire aussi. Il ne conserve pas toute l'eau qu'il absorbe par ses racines, mais en rejette une bonne partie dans l'air. Et devinez quand l'arbre transpire le plus ? Lorsque l'air est sec ou humide ? Eh bien oui, vous avez deviné, il transpire le plus quand l'air est humide. Car lorsque l'air est sec, il garde l'eau pour que ses feuilles ne fanent pas. Car si les feuilles s'assèchent, plus de photosynthèse et donc plus de nourriture et plus de croissance. Eh oui, pour croître, l'arbre doit se nourrir. Il se nourrit de deux façons. Tout d'abord par ses racines, qui absorbe l'eau et les sels minéraux qui y sont dissous, et ce liquide, que l'on appelle la sève brute, remonte jusqu'aux feuilles. L'arbre est donc en symbiose avec le sol, la terre et l'eau, comme il est en symbiose avec l'air, car pour compléter la nourriture du sol, il a également besoin d'absorber l'air. Les stomates, vous vous rappelez ces petits trous microscopiques sous les feuilles, l'estomac donc absorbe le gaz carbonique de l'air, le CO2, et rejette l'oxygène. C'est l'inverse de la respiration. Le CO2 pénètre dans les cellules où il est transformé en glucides, ou en sucre si vous voulez, par une réaction qui met en lien l'eau absorbée par les racines, c'est-à-dire la sève brute, avec l'énergie solaire captée par la photosynthèse est transformé en énergie chimique grâce à la chlorophylle. Ce processus chimique va donner la sève élaborée, celle qui va nourrir l'arbre, lui permettre de respirer, de grandir, etc. Vous m'avez suivi ? Bon, dit autrement, la chlorophylle des feuilles capte l'énergie solaire et au contact de l'eau, la fameuse sève brute, transforme l'énergie solaire en énergie chimique qui transforme le CO2 contenu dans les cellules de la feuille en glucides. Cela donne la sève élaborée qui va irriguer l'arbre du houppier jusqu'aux racines. Oui, bon, c'est complexe. Pour l'anecdote, des chercheurs étudient actuellement le phénomène de la photosynthèse des végétaux. Et oui, 100% de l'énergie solaire captée est réutilisée. Zéro perte d'énergie et zéro déchet. De quoi faire pâlir nos panneaux solaires. Sur les toits, hein, les panneaux solaires, pas dans les champs. Et on peut aussi rêver à une énergie nouvelle. Oui, bon, vaste débat que l'énergie. Mais alors, me direz-vous, quand l'arbre n'a plus de feuilles l'hiver, il ne se nourrit plus? Ben non. L'hiver venu, les arbres cessent toute activité de croissance. Ils entrent graduellement dans une phase de dormance en interrompant la division de leurs cellules, qui se trouvent alors dans l'incapacité d'utiliser les nutriments et autres hormones de croissance amenés par la sève. Lors de cette phase de dormance, il n'y a plus de croissance du tout. Mais bien qu'il arrête sa croissance, les mécanismes naturels de l'arbre ne s'arrêtent pas. L'arbre développe même des mécanismes de protection contre le froid et notamment le gel. Et puis au printemps, tout repart. Les bourgeons d'amour allongent au beau jour les bras de la forêt, comme disait Léo Ferré. L'arbre reprend sa croissance et grandit, plus ou moins vite en fonction de l'espèce et du terrain sur lequel il est implanté. Il grandit grâce aux tissus ligneux, solides et rigides, qui vont lui permettre d'atteindre parfois des hauteurs de plusieurs dizaines de mètres. L'arbre croît aussi en épaisseur. Il grossit, si vous voulez. Il forme des couches concentriques vers l'extérieur. Un peu comme le fait le caillou lancé sur l'étang. Les couches du bois les plus anciennes sont donc au centre et les plus jeunes à l'extérieur. Le cœur du tronc, que l'on appelle duramen, est composé de tissus morts. L'arbre se nourrit, il grossit, il grandit et bien sûr il se reproduit. Les organes reproductifs de l'arbre se trouvent dans les fleurs. Les organes mâles, appelés étamines, produisent le pollen. Les organes femelles, appelés pistils, contiennent les ovules. La fécondation a lieu lorsque le pollen se dépose sur le pistil et rencontre l'ovule. Une fois l'ovule fécondé, il devient une graine. Le transport du pollen est assuré soit par le vent, soit par les insectes. La pollinisation par les insectes est toutefois 10 fois plus fréquente que la pollinisation par le vent. D'où l'importance de préserver nos insectes pollinisateurs, les mouches, les bourdons, les coléoptères, les papillons et bien sûr les abeilles. Notons que dans certains cas, les arbres s'autofécondent. C'est la pollinisation directe. Ce sont les espèces monoïques possédant simultanément des fleurs mâles et des fleurs femelles sur le même arbre, comme par exemple l'amandier, le chêne ou l'eucalyptus. Et l'autofécondation est aussi le fait des espèces hermaphrodites. Ils ont des fleurs qui disposent d'organes mâles et femelles, comme le pommier, le cerisier ou parfois le tilleul. Donc, les fleurs fécondées forment des graines, enveloppées parfois du fruit, et dans la mesure où les arbres ont pour objectif de conquérir de nouveaux territoires et d'assurer la pérennité de l'espèce, quand vient l'automne, ceux-ci disposent de plusieurs stratégies de dispersion de leurs graines. Elles peuvent bien sûr tomber au pied de l'arbre, mais aussi être transportées par le vent ou les animaux. De nombreuses espèces animales, de toutes sortes, sont susceptibles de consommer les fruits des arbres et ainsi disséminer les graines via leurs excréments. D'autres exemples sortent parfois de l'ordinaire, notamment celui du jet des chênes. Cet oiseau assure des réserves pendant l'automne, en prévision de l'hiver, et ce, grâce à l'enfouissement de milliers de glands dans le sol. L'hiver venu, il en retrouvera pour se nourrir, mais il va en oublier beaucoup, ce qui favorisera la pousse des nouveaux arbres. L'écureuil, avec ses cachettes de provisions, joue un rôle similaire. Lorsque l'on parle d'écosystème forestier, on parle de ça, des interactions entre les espèces végétales, animales, fongiques, minérales, qu'elles soient microscopiques ou macroscopiques, qui vivent en interdépendance et que nous appelons la biodiversité. Donc les arbres se reproduisent quand ils ont atteint leur maturité. Pour le hêtre, par exemple, il faut une quarantaine d'années pour produire des fruits, et la production n'aura lieu que tous les 5 à 10 ans. Le chêne pédonculé ou le chêne sessile, eux, ne donnent des fruits que vers 60 ans. Bon, après, ils peuvent vivre plusieurs centaines d'années, donc ils auront d'autres cycles de reproduction. Après tout, un chêne de 80 ans est encore un adolescent. Le temps des arbres n'est pas celui de l'humain. Certains arbres, eux, se reproduisent par multiplication végétative, donc sans l'intervention d'organes sexués, en donnant naissance à des rejets, le cas du châtaignier qui peut se reproduire par son fruit, mais aussi par ses rejets, ou alors par des drageons. L'arbre effectue un bouturage par les racines qui font de nouvelles pousses. On peut dire à ce stade que l'arbre se clone. Il se reproduira à l'identique, même génome, même ADN. Par cette méthode, certains arbres atteignent des âges considérables. D'ailleurs, si les arbres sont sur Terre depuis des temps immémoriaux, bien avant l'apparition de l'humain, c'est qu'ils ont développé individuellement et collectivement des formes d'adaptation qui ont traversé les millénaires jusqu'à nos jours. Ce qui confirme, s'il en était besoin, que les arbres sont bien des êtres vivants puisque capables d'adaptation. Peter Wollenben, ingénieur forestier et aussi d'autres chercheurs, démontrent que les arbres, êtres vivants, sont capables de communiquer entre eux via des messages chimiques composés de molécules volatiles pour prévenir par exemple de l'attaque d'un parasite pour que les autres arbres sécrètent une substance qui éloignera ces parasites. Un autre mode de communication se fait sous terre, par les racines, intimement lié au mycélium, champignon filamenteux, qui peut couvrir des réseaux de plusieurs kilomètres sous terre en tous sens, comme une immense toile du web et qui permet aux arbres de se connecter entre eux. Ce phénomène prodigieux nous enseigne une chose, c'est que le sol qui nous porte, porte en son sein une multitude d'organismes vivants, interconnectés, et dont nous sommes loin encore d'avoir compris tous les mécanismes. Bon, les arbres, dans leur grande sagesse, ont mis quelques millions d'années pour mettre ces systèmes au point. Alors, armons-nous de patience pour comprendre et surtout prenons soin de nos sols. Les comportements des arbres sont étudiés par une science appelée éthologie végétale. Cette science fait régulièrement de nouvelles découvertes, comme par exemple, les arbres ont la capacité d'apprendre et de garder en mémoire. Ils ont la capacité, par exemple, de percevoir leur courbure, leur forme et les moyens de les modifier. C'est la proprioception. Qu'est-ce que c'est que la proprioception ? C'est la perception de la configuration de son propre corps dans l'espace. Bon, question, la proprioception chez l'arbre serait-elle une conscience de soi ? Aïe, 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 sans aller plus loin, cela amène quand même à réfléchir sur d'autres types d'intelligence que celles que nous connaissons. Des scientifiques tels Francis Allais, botaniste et dendrologue, parlent ainsi. Est intelligent tout être vivant qui parvient à résoudre les problèmes qu'il rencontre au cours de sa vie. Cela repose sur deux aptitudes, savoir apprendre et savoir garder en mémoire ce qui a été appris pour l'utiliser par la suite. Si l'intelligence est un ensemble de processus qui permet d'apprendre et de s'adapter à des situations nouvelles, alors les plantes sont intelligentes. Un autre chercheur, Jean-Pierre Damiano, docteur en sciences et docteur en électronique, a fait des recherches sur la cognition végétale. Il explique que les arbres sont capables de mettre en œuvre des mécanismes structurels particuliers pour se développer dans un environnement particulier, ou explorer le sous-sol à la recherche de nutriments, par exemple. Ces mécanismes de motricité, de comportement ou de plasticité adaptative vont au-delà des simples réflexes. Alors, les arbres sont-ils doués d'intelligence ? Oui ou non ? Bon, nous avons vu que les arbres sont sensibles à leur environnement, qu'ils l'utilisent et le façonnent, qu'ils sont présents au monde. Et si cette présence au monde, cette intelligence végétale, n'était après tout qu'une autre manière d'être au monde? Waouh, plutôt sympa comme idée. Bon, en attendant, n'hésitez pas à consulter notre site, notre page Facebook ou Instagram. Vous y trouverez des actualités sur la forêt, des conseils de lecture, des vidéos. Tapez SOS Forêt Dordogne dans votre moteur de recherche et vous nous trouverez. À bientôt et bonne balade en forêt.
SOS Forêt Dordogne, au cœur des forêts périgourdines.